Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et je vais continuer donc sur les sept choses les plus importantes que nous devons savoir sur le sang de Jésus. Parce que c'est quelque chose qui est très important dans nos vies, de découvrir pourquoi Jésus, alors qu'il s'est donné en sacrifice, son sang a versé, a été versé. Il y a des raisons pour lesquelles ce sang a coulé. Et ce sang qui coulait, c'est un sang qui nous a rachetés dans chaque domaine. C'est pourquoi nous devons comprendre. Nous ne devons pas être ignorants. Pour qu'à partir du moment où le sang de Jésus a coulé, et vous avez compris que le sang de Jésus n'a pas commencé de couler lorsqu'il était cloué sur la croix. Mais il y a eu des moments particuliers où ce sang divin a coulé. Et nous avons d'abord remarqué une chose, c'est que Jésus avait un sang divin qui venait du Père céleste. Tel que Adam et Ève avaient été créés, et ils avaient un sang divin, et bien Jésus c'est pareil, il n'a pas eu de père terrestre. Donc nous avons remarqué la première des choses, c'est que le sang qui coulait dans les veines de Jésus était un sang divin, non corrompu par la chute d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'il va avoir un pouvoir de rachat. Ensuite, nous avons vu que ce sang est une garantie de notre alliance. Ça veut dire que finalement, à partir du moment où Dieu a parlé dans sa parole, obligatoirement, ce que Dieu a dit, il est derrière pour l'accomplir. Parce que le sang qui a coulé est une garantie. Et cette garantie est fondamentale. Parce que, c'est, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, même des gens qui signent des contrats. Et des fois, les gens peuvent se dire, oui, mais est-ce qu'il va vraiment honorer ses engagements? Vous savez, c'est un peu dommage, mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où plein de gens signent des choses et en fait, ils ne les accomplissent jamais. Et c'est un problème, parce que des fois, on se dit, oui, bon, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais... Il faut faire très attention à cela. Jésus a versé son sang. C'est une garantie que tout ce qu'il a dit dans sa parole, ce sont des promesses immuables. Ensuite, nous avons vu que la troisième chose que nous devons savoir sur le sang, c'est que ce sang nous a pardonné en nous réconciliant avec le Père. Et je vous rappelle que le pardon va impliquer une restauration de la relation. Donc ça c'est bien, mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Le pardon est une chose, mais nous avons vu le quatrième point qui est très important, c'est la purification. La purification, c'est l'effacement de tout ce que nous avions fait avant d'être sauvés, à la fois dans le ciel, nous avons vu que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le Seigneur a purifié notre conscience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que nouvelle créature en Christ, nous pouvons vivre en bonne conscience devant Dieu. Et ça, c'est fondamental aussi. Donc, le pardon, c'est la relation envers Dieu. Mais la purification, c'est que Dieu ne viendra jamais et ne reviendra jamais sur un péché qu'il a purifié, que tu as commis. Et ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Donc, c'était le quatrième point que nous avions vu. Ensuite, nous avions vu aussi une loi spirituelle, numéro 5, que l'onction vient toujours après le sang. Ou le sang vient avant l'onction. Donc ça aussi c'est une loi spirituelle. Si tu veux être rempli, il faut vivre dans la sainteté. Si tu veux vivre des expériences très fortes avec Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Ça va ensemble. Sixième point que nous avions vu, c'est au travers de ce sang, il y a une victoire totale sur l'autorité que le diable avait sur nous. Et là aussi, je vous ai montré que c'était un point très important. N'acceptez jamais qu'on dise que oui, le Seigneur m'a révélé que tu as une malédiction, que le diable a des pouvoirs sur toi. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Jésus, au travers de son sacrifice, a complètement vaincu l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Aucun pouvoir légal. Tu n'es plus sa propriété. Tu as changé de royaume. Et je vous ai expliqué clairement que l'évangile n'est pas une affaire de religion, de baptême ou quoi que ce soit. L'évangile, c'est une affaire de changement de royaume, de changement de propriétaire, changement de propriétaire. On est passé de la propriété du diable, où le diable avait des droits légaux sur nous, à la propriété de Dieu, où le diable n'a plus de droits sur nous. Maintenant, si tu ne crois pas ces choses, alors tu laisses l'ennemi te mentir. Ne pense jamais que le diable peut faire quelque chose contre toi légalement. Non, il peut t'impressionner. Il peut te mentir. Il peut essayer de faire toutes sortes de trucs. Mais si tu ne lui laisses pas de terrain, il n'y aura pas de terrain possible. Donc on a vu que la défaite de Satan est irrévocable. Alors nous en étions dans le septième point, qui lui a beaucoup de points aussi, de sous-points en quelque sorte, sept. Alors nous avons vu que Jésus va verser sept fois son sang pendant son sacrifice. Je n'ai pas dit pendant qu'il était cloué à la croix. Le sang va couler avant. Et à chaque fois que le sang de Jésus va couler d'une partie de son corps, cela va nous racheter dans un domaine de notre vie. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel vous devez vraiment appuyer votre foi. Ne vous laissez pas manipuler par soit des faux enseignements, soit par des choses même que vous pensez vous-même. mais qui ne sont pas scripturaires.
Ariko kidahuye n'ijambo ry'Imana.
Donc il va falloir comprendre, étudier, méditer.
Biradusaba kwizera, gutahura, kwiga.
Les différents domaines où Jésus a versé son sang.
Ibice bitandukanye Yesu yamenyemwo amaraso
kugacu. Afin d'accrocher, d'appuyer sa foi.
Kugira ngo hahantu hose uhashire kwizera kwawe.
Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine où Dieu n'a pas parlé. Quand Dieu parle, vous pouvez avoir un terrain de foi. La foi commence là où Dieu a parlé. Parce que nous savons que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc obligatoirement, quand Dieu parle, s'il promet quelque chose, il y a un terrain pour que tu puisses croire. Mais Dieu ne peut parler et promettre que selon une alliance. Vous voyez, c'est là où faut vous compreniez comment ça fonctionne. Il
n'y
a pas de foi où Dieu n'a pas parlé. La foi commence là où Dieu a parlé. Mais Dieu peut parler seulement quand il scelle sa parole avec une alliance. Ça a été le cas dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, Dieu a donné la loi à Moïse. Et après, comment il a fait? Il a scellé l'alliance avec du sang des animaux, vous vous rappelez? C'est là où il avait ordonné à Moïse. Il a dit, voilà toute la loi. Et voilà ce qui va être la garantie de l'alliance, c'est voilà ce que tu vas faire vis-à-vis du peuple d'Israël avec le sang des animaux. Même chose avec nous qui sommes en
Christ.
Jésus nous a acquis des droits qu'il a scellé par son sang. Et c'est là où tu peux appuyer ta foi. Sinon, tu ne peux pas appuyer ta foi. Donc la première des choses où il a versé son sang, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémané. Des grumeaux de sang sont sortis de son corps. Et nous avons vu que c'est pour nous racheter de toute la dépression. La deuxième chose, Jésus a été frappé au visage. Là, c'est pour que nous puissions avoir un accès devant la face de Dieu. Ensuite, la dernière fois, nous avions vu que on a posé une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et je vous ai montré que Jésus nous a rachetés au niveau des façons de penser, mauvaises façons de penser, des influences de ce monde. Vous pouvez et vous devez apprendre à contrôler vos façons de penser. Je vous ai montré que dans un proverbe, il est dit qu'il y a un homme est le reflet de ses pensées, de ses mécaniques de pensée, de ses mentalités. Vous verrez que la plupart du temps, quand vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez des mécaniques de pensée qui ne sont pas selon la parole de Dieu. C'est souvent ce qui se produit. Par exemple, la pauvreté est une mentalité. La maladie aussi est une mentalité. Les mauvaises relations, c'est une mentalité. Et on pourrait donner plein d'exemples dans la vie. Être troublé, manquer de paix, c'est une mentalité. Être suicidaire, c'est une mentalité. Tout ça, c'est là-dedans que ça se passe. C'est pourquoi tu dois apprendre. La mentalité de l'échec, c'est une mentalité aussi. La mentalité de victoire, c'est une mentalité. Des gens qui ont toujours cet aspect de dire non, il y a des obstacles, mais je sais qu'avec le Seigneur, on va sortir de ça. C'est une mentalité. Si tu commences à acquérir de la foi, mais que ta pensée est une poubelle, t'es foutu. Tout le temps, ce qui va se produire, c'est que tu vas faire des pas dans la foi et d'un seul coup, ta foi va être détruite à cause de tes mentalités. Pierre a pris un bon bain froid le jour où il est sorti de la barque. Pourtant, il a commencé à marcher sur l'eau.
ariko ari hagende mu hejuru y'amazi.
Mais qu'est-ce qui s'est produit après?
Ariko icyabaye ni iki mu nyuma?
Il a plongé dans l'eau.
Yarakorokeyemo.
Parce qu'il a eu peur.
Kubera ubwoba.
Parce qu'il a eu peur.
Kubera ubwoba.
Il a été incapable de demeurer dans la foi.
Byaramunaniye gushishikara mu kwizera.
Mentalité.
Kwiyumvira.
Numéro 4.
Bwa kane.
Nous allons lire Matthieu 27 verset 26.
Matayo 27 umurongo wa 26.
Et nous allons voir que Jésus a été fouetté.
Turabona ingene Yesu yakubiswe.
Matthieu 27 verset 26. Il est dit, alors Pilate, qui était le gouverneur romain, leur relâcha Barabbas, donc le bandit, et après avoir fait flageller Jésus, donc donner des coups de fouet, il le livra pour être crucifié.
Alors
la Bible nous montre que Jésus a été fouetté. Et je vous rappelle que souvent, quand nous regardons des films sur Jésus, sur son sacrifice, il y a des réalisateurs qui nous montrent des choses très sanguinaires. On voit le sang qui coule, la brutalité des Romains, etc., qui était tout à fait vrai. Et on voit Jésus qui se fait fouetter avec un fouet. Et il est vrai qu'à l'époque, les fouets qu'on utilisait, on en utilise peut-être encore aujourd'hui, dans les terroristes font ça, je crois. Mais aujourd'hui, tout ce qui était châtiment cruel dans nos pays, maintenant ça a été enlevé, heureusement d'ailleurs. Mais à cette époque-là, au bout des lanières de cuir, il y avait des morceaux de métal comme des crochets, et c'était pas le coup de fouet lui-même qui faisait mal, c'est le fait de retirer le fouet. Parce que quand on fouettait la personne, les morceaux de métal rentraient dans la chair. Et c'est quand on retirait que ça arrachait. Et Jésus a subi ce que les autres crucifiés subissaient. Et je vous rappelle que les souffrances physiques de Jésus n'ont pas été, je dirais, plus importantes que la majorité des crucifiés. C'est ce qu'on faisait aux gens. Non, c'était Jésus a subi le même sort. On faisait à tous, on faisait subir à peu près le même sort. Peut-être pas la couronne d'épines, mais le fouet, la crucifixion. C'était pareil pour tous les condamnés à mort de la part des Romains. Ils subissaient à peu près tous les mêmes châtiments. Les condamnés à mort subissaient à peu près tous les mêmes châtiments. Et là, le sang de Christ va couler. Il va couler de son dos. Et vous savez, la parole de Dieu nous montre que les Juifs ne pouvaient pas être fouettés plus d'un certain nombre de coups. Les Romains étaient les colonisateurs de l'époque. Mais dans les colonies romaines, ils cherchaient une chose. C'est qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Les gouverneurs faisaient attention pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Parce que Rome était très stricte avec eux. Quand un gouverneur donc d'une colonie romaine il y avait beaucoup de problèmes dans son territoire, le territoire qu'il dirigeait, ces gens-là étaient rappelés pour donner des comptes en disant il se passe ça et ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quelle est ta responsabilité là-dedans. Les gouverneurs romains étaient très surveillés par Rome. Ils donnaient souvent des comptes. Donc en général, ils préféraient que tout se passe bien. Il
n'y
a pas d'ennui, donc ils restaient en place longtemps, ils en profitaient bien. C'est pourquoi souvent les Romains faisaient un peu attention aux coutumes aux religions des uns et des autres dans les colonies. Et là, ils avaient affaire à la loi juive. Et ils savaient que les juifs suivaient de très près, avec les pharisiens particulièrement, la loi. Donc les Romains, en général, regardaient un peu les coutumes, regardaient les religions et adaptaient leur châtiment par rapport à ça. Et dans la loi de Moïse, le châtiment avec le fouet ne pouvait pas se faire n'importe comment. Regardons ensemble dans Deutéronome chapitre 25, verset 3. Deutéronome 25, verset 3. On peut lire juste un petit peu plus haut. Alors, si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Verset 3. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili, c'est-à-dire humilié à tes yeux.
Ngo kandi nambuyo yakoze inabi, yakoze ibikwiye kumukubitisha, umucamanza avuge ko ajyama, bamukubitira imbere yiwe igitigiri cy'inkoni zihwanye n'ikibi yakoze. Ashobora gushitsa ku nkoni 40 ariko ntazirenze kugira ngo uyo wiwanyu yoye gukengera kuri mwebwe niyazirenza akamukubita izindi nyinshi.
Donc il y avait un châtiment qui était donné aux personnes qui étaient prises en faute.
Urumva hari igihano baha umuntu yakoze ikosa.
Et donc il est dit il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Le jugement, la punition devait être pas plus de 40.
Ngo ashobora gushitsa ku nkoni 40.
Alors Paul lui-même
Paolo,
va nous dire quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Paul a beaucoup souffert,
Paolo
a été persécuté par son propre peuple, et il va nous parler de quelque chose au verset 23 et verset 24 et 25. Il va nous parler de quelque chose qui pour nous, bon, si on ne connaît pas un peu l'histoire, la culture de l'époque, ça nous paraît un peu éloigné. On dit bien, pourquoi est-ce que l'Écriture nous parle de ça? Paul était remis en question par l'église des Corinthiens qu'il avait fondée d'ailleurs. Et les Corinthiens lui cherchaient beaucoup, beaucoup d'histoires. Et particulièrement, il y avait des gens qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe et qui disaient ni plus ni moins que Paul était un faux serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que dans la deuxième épître aux Corinthiens, vous allez trouver beaucoup d'enseignements sur la vie personnelle de Paul, son ministère, comment il vivait les choses de son côté en tant que ministre de
Christ.
Et là, il dit, sont-ils ministres de Christ, c'est-à-dire les gens qui me remettent en question? Parce que Paul, franchement, était attristé de savoir que les Corinthiens remettait son ministère en question alors qu'il s'était donné pour eux, alors que vraiment il avait tout fait pour investir en eux, qu'il avait de bonnes relations, que c'était pas quelqu'un de conflictuel, que c'était pas quelqu'un qui avait essayé de les escroquer. Il leur avait pas menti, il les avait pas trompés, il leur avait donné la parole. Et il était étonné de voir que les Corinthiens eux-mêmes, alors que d'autres personnes avaient débarqué dans l'église, ces autres personnes jouaient avec l'église en disant « Oh, ce Paul-là, mais c'est un aventurier, lui !» Et Paul va se défendre. Et leur dit « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, c'est-à-dire par un travail vraiment régulier, difficile. Bien plus par des coups, bien plus par des emprisonnements. » bien plus souvent en danger de mort. Et verset 24, il va dire, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1.
Ngo nabakoze ba Kristo mvuga nk'umusazi ndabarusha mu butame ndabarusha gushirwa mu mabohero ndabarusha mu gukubitwa kurenza urugero kenshi nari mwirinda ry'urupfu abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39
40 coups moins 1.
Ibimoko 39.
On a l'impression que c'est une expression que tout le monde va connaître quand il écrit ça.
Omenga ni kintu cyumvikana abivuze gucyo bose omenga barabizi.
Sauf que vous et moi au 21e siècle, on ne connaît pas pourquoi 40 coups moins 1.
Kiretse ko twebwe dutahura igituma 39 40 gukura mwimwe.
Bon, la loi de Moïse disait tu ne donneras pas plus de 40 coups.
Ibyagezwe bya Mose byavuga ko udashobora kurenza 40
gukubita. Quand un juif était fouetté, on ne pouvait pas lui donner plus que 40.
Iyo mu yuda bamukubise ntiwashobora kurenza 40 mu kumukubita.
Alors, il s'est amené dans une certaine coutume juive. Surtout les, au bout d'un moment, ils ont dit, il faut un coup de sécurité. Dans le sens, si on donne plus de 40 coups, parce que celui qui fouette a de la haine. Alors il va pécher contre la loi. Donc d'après ce qu'on sait, il est venu cette, je dirais, coutume entre guillemets pour ne pas dépasser être sûr de ne pas dépasser la loi de donner 39 coups et un bon nombre d'érudits pensent que Jésus a été fouetté de 39
coups.
Certains ont fait des études à propos des maladies. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, on va lire deux passages d'Ésaïe, 50 verset 6 et 53 verset 5. 56, 50 verset 6 et Ésaïe 53 verset 5.
Yesaya 53.
Et il y a des personnes qui ont fait des études et qui ont des grands ministères de guérison.
Ésaïe 50 verset
6. Il est dit au début du verset, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Ici, on parle de la flagellation de Jésus. C'est Ésaïe qui va prophétiser 700 ans avant la croix. Voir prophétiquement les souffrances du Messie. Je vous rappelle que Ésaïe, c'est le prophète de l'Ancien Testament qui a reçu le plus de révélations sur ce qui allait se passer. Pendant le sacrifice du Messie. Mais il ne pouvait pas comprendre réellement. La Bible nous dira dans la première épître de Pierre que les prophètes à l'époque faisaient l'objet de leur investigation, c'est-à-dire qu'ils recherchaient si les prophéties qu'ils recevaient sur le Messie, c'était pour eux. Parce qu'ils ont reçu de telles choses comme ça, surtout Ésaïe. Ésaïe a reçu tellement de prophéties sur les souffrances du Messie que certainement, il a dû prier, il a dû dire, mais Seigneur, c'est pour quand, c'est qui, c'est quoi tout ça? Et il est mort sans voir ces choses. Nous n'étions pas encore vivants quand ça s'est passé. Mais Dieu soit béni, nous en sommes au bénéfice. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Vous savez, il n'y a pas de plus belle époque que de vivre dans les temps dans lesquels nous sommes. Pour l'évangile de Christ. Il
n'y
a pas de plus belle époque. Moi, j'aurais pas aimé naître dans un autre moment. Il est préférable de connaître Christ selon l'Esprit que d'avoir été obligé d'aller en Israël pour être touché et écouter Jésus. Franchement. Je n'aurais pas aimé vivre dans un autre siècle. Surtout pas au temps de l'Ancien Testament. Je préférais être dans la Nouvelle Alliance et dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que nous pouvons communiquer l'Évangile sur toute la planète. Et nous pouvons communiquer ce que Jésus a fait pour nous. Alors la Bible dit, j'ai livré mon dos. Là, ici, on parle de la flagellation de Christ à ceux qui me frappaient. Regardez Ésaïe 53. Ésaïe 53 au verset 5. Il est dit donc, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtres, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Yamara, yachumitwe byacu bicomoro, yajanjagura ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe nidukiza.
Certaines personnes ont fait des études très poussées sur la maladie et la guérison divine.
Hari abantu rero bagerageje kwiga ku bijanye n'indwara no gukizwa n'Imana.
Et ils auraient découvert qu'il y a 39 types de maladies.
Ngo basanga.
J'ai pas dit 39 maladies.
Ngo basanga hari imigwi mikuru mikuru 39.
Que si on classait les maladies par groupe.
Il y aurait 39
types de maladies.
La parole
de Dieu nous dit que c'est par les meurtrissures de Jésus.
Et à chaque
fois que Christ a reçu un coup de fouet,
ça
a été pour nous racheter d'un type de maladie.
À
chaque fois que Jésus était fouetté,
à chaque
fois qu'il y avait une meurtrissure,
sur
le dos de Jésus,
du
sang coulait comme une fontaine. Au deuxième coup, du sang a coulé encore. Au troisième coup, du sang a coulé. Au quatrième coup, du sang a coulé. Au 36e coup, du sang a coulé. Au 37e coup, du sang a coulé.
Au 38e
coup, du sang a coulé. Et le 39e coup, ce fut un rachat total de tous les types de maladies. C'est pourquoi, lorsque Pierre va reprendre la parole d'Ésaïe dans 1 Pierre
2:24, 1 Pierre 2:24. La
parole de Dieu va nous montrer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, un accomplissement total sur la guérison divine. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, il guérissait toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Mais quand Jésus était sur la terre, pour être guéri de toutes sortes de maladies, il fallait être juste à côté de Jésus. Là où il se trouvait. En Israël, à un point donné d'Israël, et pouvoir braver toute la foule et être devant le Seigneur. Et là, Pierre va nous dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été
guéris.
Rappelez-vous, et je vous l'ai enseigné un bon nombre de fois déjà, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Parce que Ésaïe voyait prophétiquement l'événement de la croix. Donc l'esprit prophétique a transporté Ésaïe jusqu'à l'événement de la croix.
Et
Ésaïe voyait devant lui ni plus ni moins quoi, la croix être accomplie, le sacrifice. Lorsque Jésus a crié cette parole, tout est accompli à la croix. Ça voulait dire une chose. Tous les domaines où je devais racheter l'être humain, je l'ai fait. Le reste, c'est le Père qui va prendre le relais. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, c'est pas que la croix, enfin, tout était terminé, qu'il était ressuscité. Il n'était pas encore ressuscité. Il allait mourir physiquement. Mais quand il a dit tout est accompli, c'est tous les domaines où il devait nous racheter. Le sang avait coulé. Donc obligatoirement, l'homme qui viendrait à lui avec foi dans les différents domaines, il avait juste à s'approprier la bénédiction. Il est très important de comprendre. Et je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. L'équation a été simplifiée. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait. Là où il a versé son sang, tu peux te présenter devant lui et tu fonctionnes dans la foi et tu peux lui dire: Père, dans le nom de Jésus, ton fils a versé son sang pour ce domaine-là. Donc ce que tu as dit dans ta parole a été scellé, non pas avec du sang des animaux, non pas parce que des gens ont parlé et ont mis juste un cachet d'une organisation, d'une association ou d'un gouvernement humain. Mais Seigneur, ce que tu as dit là dans cette parole, c'est scellé par le sang précieux qui a coulé pour moi dans ce domaine. Donc c'est la garantie que ce que tu as promis, tu l'accomplis.
Et
Seigneur, je viens à toi pleinement dans la foi. Quand tu fais ça, crois-moi, tu ne peux pas louper l'action divine. L'action de Dieu dans ta vie va dépendre de la position que tu vas avoir par rapport au domaine où Jésus a versé son sang. Que ce soit dans la guérison divine, que ce soit dans n'importe quel domaine où tu peux avoir des batailles, là où tu n'as pas de responsabilité. Parce que là, je tiens à le dire aussi, la guérison divine nous appartient. Mais la guérison divine, tu pourras avoir la foi à partir du moment où tu marches dans le domaine où Dieu veut que tu marches. Parce qu'il y a des gens malheureusement qui tombent malades parce qu'ils font n'importe quoi. Certains vraiment ne font pas attention à leur corps. Et rappelez-vous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce temple, tu dois en prendre soin. Il y a des gens aussi, parce qu'ils marchent dans la désobéissance en dehors de la volonté de Dieu, tombent malades. Et tu n'arriverais pas à accrocher ta foi si tu as des problèmes de péché, si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, si tu es en dehors de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur t'a demandé de faire ça et ça et tu refuses de le faire. Vous savez, il y a des gens comme ça. Catherine Kuhlmann en est un exemple.
Oui, toi, Catherine Kuhlmann,
et il y a d'autres personnes comme ça qui ont subi, qui ont eu des problèmes dans leur corps. Et quand ils ont obéi au Seigneur, instantanément ils ont été guéris.
Vous
voyez, il y a différentes personnes comme ça qui, parce qu'elles n'obéissent pas à Dieu, Dieu leur demande de faire certaines choses, elles se mettent dans un domaine où le diable peut intervenir. Et c'est là aussi où il faut être bien clair. Mais Jésus nous a rachetés. Tu peux appuyer ta foi quelque part. Si Jésus a versé son sang, maintenant tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Si par exemple dans tes pensées tu n'as que du doute, il va falloir que tu domines tes pensées. Il y a par exemple des gens qui ont plein de problèmes personnels, par exemple les gens qui manquent de pardon, les gens amers, les gens qui vraiment ont des pensées toujours extrêmement négatives. Vous les verrez, ils tombent malades. Et là, le problème, c'est pas. Ils peuvent essayer de demander à Jésus de les guérir. Et essayer de recevoir leur guérison. Le problème n'est pas là. Il faut d'abord qu'ils changent. Il faut qu'il change.
Ahinduka.
Des fois, les gens ne veulent pas changer dans certains domaines. Ils tombent malades.
Akagwara.
Et ils ne guérissent pas.
Nakire.
Pourquoi ?
Kuberiki.
Parce qu'ils ne peuvent pas accrocher leur foi.
Kuberiki.
Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas accrocher leur foi ?
Kuberiki.
Parce qu'ils ont d'autres problèmes à régler. Tu ne peux pas être au bénéfice de ce que Jésus a fait pour toi pour la guérison s'il y a des choses que tu ne veux pas régler dans ta vie. Le manque de pardon, l'amertume, le ressentiment, ça c'est typique. Les pensées négatives, si
tu
es environné constamment de pensées négatives, tu dois d'abord changer ça. Et après, la foi va être générée très facilement. Mais il y a parfois des personnes à cause de ça, elles restent malades. Et certaines meurent d'ailleurs.
Vous
voyez, Jésus nous a rachetés dans différents domaines. C'est par exemple quand un pécheur perdu, il peut être sous une conviction de péché, mais s'il refuse de se repentir, le sang de Jésus ne pourra pas être efficace pour lui. Parce que la personne refuse de se mettre dans les conditions divines. Pourtant, Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang pour le pardon des péchés. Mais comme la personne, moi je me souviens, il y avait un frère qui, des années plus tard, s'est converti. Et il était d'une famille pentecôtiste ici. Et alors, il était vraiment... sa maman priait beaucoup pour les garçons. Elle avait des garçons très durs. Et la maman était là et elle priait pour ces garçons, pour que ces garçons se donnent au Seigneur. Et lui, il connaissait très bien le message de l'Évangile. Il savait très bien pourquoi Jésus avait versé son sang. Mais il était là tranquille. Il disait, moi je suis jeune. On va bien s'amuser encore. On va être avec les copains, on va aller boire, on va aller avec les filles, on va aller faire tout un tatou. Il vivait vraiment tout ce qu'il pouvait. Plus la nuit que le jour. Certains, vous êtes sortis de ce genre de vie. Que vous avez connu, vous étiez plus réveillé la nuit que le jour. Donc, il savait bien qu'il était pécheur. Mais il
ne
voulait pas se repentir. Et le sang de Jésus n'avait aucune efficacité dans sa vie. Parce qu'il n'était pas dans les conditions divines. Dans chaque domaine, frères et sœurs, c'est important. C'est de se mettre dans les conditions divines. C'est vrai concernant le pardon des péchés, c'est vrai pour la guérison, c'est vrai pour tout. Et un jour, ils étaient en voiture. Et ils étaient proches là du lac. Et ils étaient tellement ivres qu'ils conduisaient. Ils conduisaient évidemment comme des fous pour faire les gens intelligents. Vous connaissez les jeunes en général. Et ils sont rentrés dans un arbre. Tous ses copains sont morts. Lui s'en est sorti miraculeusement. Merci maman pour les prières. Merci maman pour les prières. Il s'en est sorti tout seul. C'était le samedi soir, pendant la nuit de samedi à dimanche. Le lendemain matin, il était au culte et il a donné sa vie à Jésus. Il s'est vraiment repenti. Là, le sang de Jésus a pu être efficace pour lui. Le sang de Jésus est efficace pour nous. Quand nous remplissons les conditions divines. Pour la guérison divine. Jésus a été frappé 39 fois. Chaque fois que le fouet entrait dans son dos, un type de maladie était racheté. Le sang coulait. Le type de maladie était racheté. Dans chaque domaine, Jésus a guéri quand il était sur la terre, je vous rappelle, toutes sortes de maladies. Pas une ou deux. Toutes sortes de maladies. Donc le prix a été payé. La facture a été payée. Ce que toi tu ne pourrais jamais payer, ce que moi je ne pourrais jamais payer. Lui, il l'a payé. Mais tu dois te mettre dans les conditions.
Si
tu ne le fais pas, s'il y a des choses dans ta vie que tu dois régler, règle-les d'abord. Règle-les d'abord. Parce que la Bible le dit, d'ailleurs dans 1 Corinthiens 11, la parole de Dieu nous en parle. Il y a certaines choses, frères et sœurs, qu'on n'aime pas trop lire. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, quand on est sorti vraiment des mentalités religieuses, il y a un certain nombre de choses qu'on n'aime pas trop lire. Et il dit, c'est à propos de la Sainte Cène dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset
23.
Il dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis ou enseigné dans d'autres versions, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le sang, le corps et le sang du Seigneur. Excusez-moi. Chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent le pain et boivent la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, c'est pour ça, regardez bien, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On n'aime pas trop entendre ce genre de verset. Alors, qu'est-ce que cette parole veut dire ? Vous avez froid dans le dos ? C'est rare que la parole de Dieu nous donne ce genre de choses. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est le rachat en Christ, et la Bible est très claire là-dessus, et c'est là où nous devons appuyer notre foi. Nous ne sommes pas des religieux,
hein,
les histoires où il faut redonner sa vie à Jésus tous les dimanches matins pour être sûr d'être bien sauvé, re-sauvé, sur-sauvé. Ce n'est pas biblique. Celui, un chrétien qui commet un péché, il perd son salut, ce n'est pas biblique. Parce que je vous rappelle que si un chrétien pêche, il n'est pas destitué de sa position de fils ou de fille. C'est-à-dire qu'il ne redevient pas pêcheur. Parce que s'il redevenait pêcheur, il devrait renaître de nouveau. Et la fois suivante, s'il pêchait, il reperdrait encore son salut et il devrait renaître de nouveau. Sauf que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'on est de nouveau une seule fois. Par contre, si un chrétien pêche, bien sûr, il bloque sa relation avec Dieu. Mais ici, on voit que Paul parle à des chrétiens, ou supposés chrétiens. Dans l'église de Corinthe, il y avait des vrais chrétiens nés de nouveau. Il y avait aussi des adhérents. Des gens qui n'étaient pas, qui aimaient bien l'évangile. Mais qui n'était pas né de nouveau. Et Paul s'adresse en partie à des chrétiens ici. Et il leur dit, si vous ne discernez pas le corps du Seigneur et le sang du Seigneur, le sang de l'Alliance, si vous le méprisez. Et dans l'église de Corinthe, il y avait de sérieux problèmes. Il y avait des faux chrétiens, parce que Paul leur dit à un moment, il y en a certains, vous ne connaissez pas Dieu. Je le dis à votre honte, certains vous ne connaissez pas Dieu, vous faites semblant d'être sauvés mais vous n'êtes pas sauvés. Voilà ce que Paul disait. Mais il y avait aussi des gens qui étaient sauvés et qui vivaient dans le péché, qui ne se corrigeaient pas. Et Paul va dire à certains moments, attention, ne persévérez pas dans ces choses. Parce que si vous ne discernez pas, vous risquez d'ouvrir des portes. C'est ce que ce passage veut dire.
Ce
n'est pas Dieu qui envoie des maladies ou fait mourir les gens. Mais il y a certaines personnes qui sont malades. Bon, il y en a, c'est parce qu'ils ne font pas attention à leur corps. Bon, ils se sont mis dans des situations, bah, ils ont attrapé des maladies. Jésus est mort pour ça, tu as juste à motiver ta foi. Il y a des choses où tu n'es absolument pas du tout responsable et tu es tombé malade pour certains domaines. Dans certains domaines. Maintenant, avec ta foi, tu vas guérir. Parce que Jésus t'a racheté de ça.
Tu
as juste besoin de motiver ta foi, d'accrocher ta foi et de guérir dans le nom de Jésus. Parce que ça t'appartient. Et ça, c'est important de le comprendre. Que tu n'as pas besoin d'être là en train de prier, de jeûner des jours et des jours. Oh Dieu, guéris-moi, 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 guéris-moi. C'est déjà fait. C'est scellé. Ça t'appartient. Tu dois juste marcher dans ce domaine-là. Comme tu es rentré dans le salut, comme tu es rentré dans la bénédiction du baptême de l'esprit, comme tu es rentré dans la prospérité, tu rentres dans ta guérison. Et dans le nom de Jésus, tu la déclares. Tu marches dans la foi. Et il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, il y a des gens qui ignorent ce que Jésus a fait pour eux. Évidemment, quand tu ignores, la parole de Dieu vient de ce qu'on en, la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Là, tu
ne
peux pas trouver ta guérison. Pourtant, la guérison t'appartient. Mais il y a des chrétiens qui prient pour que Dieu veuille bien descendre une goutte de guérison dans leur corps. Et il faut ouvrir les verrous des portes, les portes blindées du ciel. Non, Jésus a déjà ouvert la porte. Il n'y a pas besoin de chercher à par ta prière et par des espèces de trucs bizarres d'essayer de briser les verrous de fer. C'est déjà fait. C'est toi, à toi de croire simplement. Par contre, Paul ici nous parle de gens qui ne se corrigent pas et qui se retrouvent dans des maladies. Et il y a certaines choses où tu ne pourras pas guérir, même si tu es quelqu'un qui a la foi, même si tu es quelqu'un qui connaît la présence de Dieu. Le problème n'est pas ta foi, le problème n'est pas la présence de Dieu, le problème c'est que tu dois changer. Tu dois te repentir dans certains domaines. Et si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas guéri par Dieu. Et la parole de Dieu nous le montre ici. Alors, c'est pour ça que Paul va dire que chacun s'examine lui-même. On va voir le verset. Donc, que chacun s'éprouve. Littéralement, s'éprouver, c'est voir réellement où il en est avec le Seigneur. Avec sa confiance. Sa conscience, pardon. Pas confiance, sa conscience. Parce que c'est à chacun, on est responsable de notre vie. Rappelez-vous, vous n'êtes plus propriétaire. Vous êtes gestionnaire. Gestionnaire de votre vie. Le discernement du bien et du mal, chacun de nous, on le sait dans notre conscience. Et quand quelqu'un persévère à faire le mal, et il y a des gens, Catherine Kuhlmann disait souvent dans son grand ministère de guérison, que les gens, vous savez, qui manquent de pardon ou qui sont amers dans la vie, elle disait ça assez souvent dans ses services de guérison. Ce sont les gens qui sont les plus difficiles, pour qui il est le plus difficile de recevoir la guérison. Elle le disait très souvent parce qu'elle l'a vu bien des fois. Des gens qui, par leur passé, par les blessures du passé, n'arrivaient pas à saisir leur guérison. Alors qu'elle a eu un immense ministère de guérison elle-même, elle a vu des centaines de milliers de gens guéris. Et bien, en fait, elle disait que la plupart du temps, les gens qui n'étaient pas guéris dans son ministère, c'était souvent un problème d'amertume, de passé dont ils n'arrivaient pas à se libérer. De manque de pardon, et ça faisait un obstacle pour recevoir la guérison. On va se lever, on va prier ensemble et nous allons clôturer notre réunion aujourd'hui. Vous savez, Dieu est bon. Et le Seigneur est celui vraiment qui nous a rachetés d'une manière extraordinaire. Les choses nous appartiennent. Ce sera d'ailleurs quand je ferai la clôture sur ces sept choses que nous devons savoir sur le sang de Jésus. Je vais vous montrer les différentes attitudes que nous pouvons adopter par rapport à ça. Parce que justement, c'est ce qui va être extrêmement déterminant. Très déterminant. Concernant ce dont nous pouvons bénéficier du sacrifice de Jésus. Quand tu apprends à bien te positionner, c'est toujours une grande bénédiction. Parce que tu sais vraiment comment ce que Jésus a fait, tu bénéficies de ce que Jésus a fait pour toi. Levez vos mains vers le Seigneur, la prière. Jésus, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que dans les différents domaines où ton sang a coulé, tu nous as parfaitement, totalement, complètement
rachetés.
C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu as pourvu un salut si parfait. Avec toutes les conséquences, Seigneur. Tous les bénéfices que nous pouvons avoir. Que nous pouvons voir se manifester dans nos vies. Et merci, Seigneur, parce que tu as pourvu à une guérison totale dans nos corps. C'est pourquoi nous voulons encore te dire merci. Parce qu'à chaque coup que tu as reçu dans le dos, alors c'était pour nous racheter d'un type de maladie. Oh, c'est pourquoi nous voulons te dire encore, Seigneur, que nous voulons croire dans ce sacrifice jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous avons cru pour ton salut, Seigneur. Et nous voulons croire pour la guérison. Nous voulons croire pour la guérison. Mais Seigneur, aussi nous voulons comprendre quelles sont les conditions que tu mets dans ta parole. Afin, Seigneur, de marcher dans la santé divine. Et peut-être que ce matin c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Tu es là en train de te bagarrer avec une maladie. Pose-toi la question si c'était un manque de foi par rapport à ce que Jésus a fait. Si c'est le cas, dis-lui, Seigneur, pardon. Seigneur, je veux croire à partir d'aujourd'hui. Parce que je crois que tu as été flagellé. Tu as reçu ces coups de fouet pour ma guérison. Et que ce que tu as souffert, Seigneur, je n'ai plus besoin de le souffrir. Et à ce moment-là, tu reçois, tu remercies et tu reçois. Peut-être que tu étais ignorant. Peut-être que tu ignorais. Et là, tu as la connaissance. Saisis par ces meurtrissures. Tu as été guéri. Entièrement, totalement, complètement. Parle à ton corps à ce moment-là. Et dis-lui dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de guérir. Parce que mon Sauveur, a versé son sang et m'a racheté dans ce domaine-là. Maladie, tu quittes mon corps. Maladie, tu n'as plus rien à faire. Dans le nom de Jésus, je te maudis et j'ordonne à mon corps de guérir. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à mon corps de guérir. Que la douleur parte dans le nom de Jésus. Que la cause de cette maladie, la racine soit maudite. Dans le nom de Jésus. Comme Jésus a parlé à cet arbre. Il a parlé à cet arbre. À ce figuier. Et il l'a maudit. Et à la racine. La vie s'est arrêtée. Maudit la racine de cette maladie ce matin. Dans le nom de Jésus, tu ordonnes à la racine de cette maladie de mourir dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu vas voir les effets de ces choses-là. Maintenant, examine ta vie aussi. Si tu persévères dans le péché, repens-toi ce matin. Et tu guériras. Tu seras restauré. Demande pardon maintenant au Seigneur. Repens-toi par rapport à ça. Et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Peut-être que ton problème, c'est le manque de pardon. C'est une vie d'amertume. Où constamment tu vois les autres d'une mauvaise façon. Et tu es en train, avec ta tête, d'ouvrir à des oppressions spirituelles de maladie une possibilité au diable de détruire ton corps. Pardonne, laisse derrière tout ce qui t'empoisonne la vie, parce que ça empoisonne ton corps, parce que ça attire des oppressions spirituelles et que tu n'arrives plus à guérir. Le bénéfice de ce que Jésus a fait, tu ne peux pas en profiter. Ne sois pas rempli d'amertume, de manque de pardon, de blessures vis-à-vis des autres, mais ouvre-toi, tourne la page et maintenant réécris une page blanche. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Mais c'est à toi de prendre ces choses. C'est ta décision. Lui, avec son sang, il a pourvu au rachat. La facture a été payée. Donc tu n'as pas besoin d'accepter de souffrir pendant des jours, des semaines, des mois, et voir ton corps se détruire petit à petit. Parce que sinon, c'est que tu n'as pas compris que tu étais dans un de ces cas que j'ai nommé maintenant et que tu n'as pas su te positionner correctement. Tu as une responsabilité de voir l'alliance, les promesses de l'alliance se manifester dans ta vie. Tu as une responsabilité. C'est la connaissance, c'est la foi, c'est la sainteté, c'est de renoncer à tout ce qui est dans ta tête et qui t'amène ces maladies. Et si tu fais ça, la guérison se manifeste. Ce n'est pas la parole du pasteur Olivier Durand. C'est la parole éternelle de Dieu. Ce qu'il a scellé avec son sang précieux.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.